Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une série de documents qui sont une véritable bible pour quiconque opère dans le commerce électronique. Un guide de préparation pour la saison de pointe de 2025.
La fameuse saison de pointe.
Oui. On parle de la période des fêtes, du vendredi fou, ce marathon qui peut soit faire l'année d'une entreprise, soit la mettre complètement à genoux.
Absolument.
Pour rendre ça concret, on va suivre le parcours d'un produit fictif, disons... une tuque en laine faite à la main par une petite entreprise de Sherbrooke.
J'aime l'idée.
Et cette tuque doit se rendre chez un client en Californie. On va utiliser ce guide pour voir chaque obstacle, mais aussi chaque occasion de briller sur son chemin.
C'est une excellente façon de l'aborder, parce que ce parcours-là, il est semé d'embûches. Le guide définit la haute saison, qui s'étend grosso modo d'août à la mi-décembre, comme une tempête parfaite, là.
Mm-hmm.
La demande explose et ça met une pression, mais une pression incroyable sur toute la chaîne logistique. Les sources identifient trois murs auxquels notre tuque de Sherbrooke pourrait se heurter.
OK, lesquels?
D'abord, des suppléments tarifaires qui sortent de nulle part. Ensuite, une capacité de transport qui fond comme neige au soleil.
Ouf!
Et finalement, des délais de dédouanement qui s'étirent. Pour une entreprise qui n'est pas prête, ces obstacles transforment très vite les profits en cauchemars logistiques.
D'accord. Alors, commençons par la base. Avant même que notre tuque soit emballé, il y a la planification. Le guide insiste beaucoup là-dessus, mais bien planifié, ça peut sonner un peu creux. Concrètement, ça veut dire quoi?
Concrètement, ça veut dire jouer au devin, mais avec des données. Utiliser les ventes des années précédentes, les tendances du marché, pour prévoir non seulement combien de tuques on va vendre, mais aussi quand et où elles devront aller.
OK, donc c'est très précis.
C'est ce qui permet de réserver de l'espace de transport avant que tout le monde s'y mette et d'éviter les ruptures de stock. C'est la différence entre diriger son navire et être à la dérive.
C'est une bonne image.
Et le guide cite une statistique qui est assez révélatrice. L'industrie canadienne du transport et de l'entreposage a cru de 3,7 milliards de dollars en 2024. La reine est de plus en plus achalandée.
Une fois qu'on a une idée de la demande, il faut emballer cette tuque. Ça semble tout simple, mais j'imagine qu'il y a un piège.
Ah oui, il y a un piège qui s'appelle le poids volumétrique.
Le poids volumétrique. Explique-nous ça.
Les transporteurs ne facturent pas juste le poids de l'objet, mais aussi l'espace qu'il occupe dans le camion. Imagine, t'envoies un abat-jour. C'est super léger, mais ça prend une place folle.
D'accord.
Fait que tu vas payer pour tout cet espace vide. Pour notre tuque, ça veut dire utiliser un sac ou une boîte la plus petite et compacte possible.
Chaque centimètre cube compte, finalement.
Exactement. Chaque centimètre cube sauvé, c'est de l'argent qui reste dans tes poches, pas dans celle du transporteur. Et un bon emballage, c'est aussi moins de risque de dommages, donc moins de retours.
Un autre point soulevé est la diversification des transporteurs. L'idée de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça semble logique, mais est-ce que ça ne complique pas tout pour une petite entreprise?
C'est une excellente question, parce que ça peut sembler contre-intuitif. Mais le guide ne présente pas ça comme un simple plan B. Il s'agit de bâtir un réseau logistique qu'on pourrait qualifier d'antifragile.
Antifragile?
Oui. Le but n'est pas juste de survivre si ton transporteur principal flanche. C'est d'avoir un système si flexible que tu peux pivoter instantanément vers une meilleure option, plus rapide ou moins chère.
T'en joues pendant que tes compétiteurs sont paralysés.
C'est ça, pendant qu'ils attendent un camion qui n'arrive pas. C'est transformer une crise potentielle en un avantage concurrentiel.
D'accord. Donc, notre tuque est bien emballée, elle est prête à partir. Et là, elle arrive à la frontière américaine. C'est souvent là que les choses se corsent.
C'est un point névralgique.
Le guide mentionne d'ailleurs un chiffre qui donne le vertige. En 2025, les importations au Canada ont dépassé les 1 000 milliards de dollars pour la première fois. Ça montre que le commerce transfrontalier, ce n'est plus une option, c'est la norme.
Exactement. Et à la frontière, la précision n'est pas une option, c'est une obligation. 4 points sont non négociables.
On écoute.
Premièrement, la documentation. Facture commerciale, liste de colisage, tout doit être impeccable. La moindre erreur et notre tuque se retrouve dans un purgatoire douanier pendant des semaines.
Mais soyons réalistes. Pour un entrepreneur qui gère tout, de la production au marketing et qui est débordé pendant les fêtes, passer des heures à remplir des formulaires, ça peut sembler être une tâche de trop. Est-ce que c'est vraiment si critique?
C'est absolument critique et c'est une bonne question parce qu'il faut voir ça différemment. Ce n'est pas juste de la paperasse, c'est une police d'assurance contre le chaos.
Ah, j'aime ça.
Le temps passé à vérifier trois fois un formulaire est infiniment moins coûteux que le temps et l'argent perdus à gérer un colis bloqué et un client furieux en plein mois de décembre.
OK. Point pris. Ça, c'était le premier.
Deuxième point, la précision des mesures. On mesure la boîte, pas la tuque, et on arrondit toujours au centimètre ou au pouce supérieur. Ça évite les frais de correction surprise.
Et les deux autres points?
Le troisième, c'est la gestion des attentes. Une livraison internationale, ça prend plus de temps. Il faut l'annoncer clairement sur son site.
Être transparent.
La pire chose à faire est de promettre une livraison en trois jours quand la réalité est de 10. La transparence crée la confiance, même s'il y a des délais. Et finalement, le quatrième point, c'est de choisir des partenaires fiables qui ont une expertise prouvée à l'international.
Donc, face et devoir.
Évelyne a une suggestion brillante. Faites des envois tests avec un nouveau transporteur en septembre, bien avant la folie, pour voir si leur processus est aussi fluide qu'ils le prétendent.
C'est malin. Donc, notre TUC a passé la douane. Elle est maintenant dans le réseau de colis standard. Quelles sont les subtilités à ce niveau-là?
Ici, on entre dans des conseils très, très pratiques. Le premier, utiliser les centres de dépôt.
Plutôt que d'attendre le ramassage.
Exact. Pendant la haute saison, attendre le ramassage du transporteur peut te faire perdre une journée complète. Aller porter tes colis directement au centre de tri te donne le contrôle. Tu sais exactement quand ta truc entre dans le système. C'est un petit effort qui peut faire gagner un temps précieux.
Et j'imagine qu'il y a des dates à ne pas manquer, hein?
Absolument. Chaque transporteur publie un calendrier avec les dates limites pour une livraison garantie avant Noël. Ces dates-là, elles sont sacrées.
Faut les encercler en haut sur le calendrier.
Il faut les afficher dans son bureau, mettre des alarmes. C'est la ligne d'arrivée à ne pas franchir. Les manquer, c'est la garantie d'avoir des clients mécontents.
Et puis, il y a l'après-livraison, les retours. Personne n'aime ça, mais c'est inévitable.
Un mal nécessaire. Mais un processus de retour simple, avec une étiquette pré-imprimée, des instructions claires, ça peut transformer un client déçu en un client fidèle. Ça montre que t'es là pour lui même quand ça se passe pas comme prévu.
D'accord, ça couvre bien le cas de notre TUC, mais si la même entreprise de Sherbrooke se met à vendre des meubles, disons des bancs en bois d'érable, on ne peut pas envoyer ça par la poste. Ça doit ouvrir la porte à un tout autre univers de complexité.
C'est un tout autre monde, et c'est là qu'on entre dans l'expédition LTL pour Less Than Truckload.
Moins qu'un chargement de camion.
C'est ça. En gros, au lieu de payer pour un camion entier, tu payes juste pour l'espace que ta palette de bancs occupe, partagé avec d'autres entreprises. C'est économique, mais ça vient avec son propre manuel d'instruction.
Et le guide nous parle de la classe de frais. Ça sonne très technique. Comment est-ce qu'on peut simplifier ça?
C'est plus simple qu'il n'y paraît. Imagine que tu dois expédier une palette. Est-ce que c'est une palette de briques ou une palette de croustilles?
D'accord.
La palette de briques est dense, solide, facile à manipuler. Ça, c'est une classe de frais basse, donc pas cher.
Logique.
La palette de croustilles est fragile, prend une place énorme pour son poids et demande beaucoup de précautions. Ça, c'est une classe de frais élevée, donc beaucoup plus cher.
Et j'imagine que l'erreur coûte cher.
Déclarer la mauvaise classe, volontairement ou non, c'est la façon la plus rapide de recevoir une facture corrigée avec des frais exorbitants.
Et en LTL, la compétition pour l'espace dans le camion doit être féroce pendant la haute saison.
C'est le nerf de la guerre. L'espace se réserve des semaines, voire des mois à l'avance.
Wow!
C'est comme essayer de réserver un chalet pour les fêtes à la dernière minute. Puis c'est cher et il ne reste que les moins bonnes options. La clé, c'est d'avoir de bonnes relations avec ses transporteurs et de planifier. Et tout comme pour le transfrontalier, la documentation, ici le connaissement ou bill of lading, doit être parfaite.
Encore la paperasse.
Toujours. Une erreur sur ce document ne retarde pas seulement ta palette de bancs, elle retarde le camion entier, ce qui rend les transporteurs, disons, très peu coopératifs.
Au bout du compte, toute cette planification, toutes ces classes de fret et ces documents, c'est invisible pour le client en Californie qui attend sa TUC. Tout ce qui compte pour lui, c'est de la recevoir à temps. Comment est-ce que toute cette logistique se traduit dans une bonne expérience client?
C'est le point de jonction. C'est là que tout se joue. Le guide insiste sur quelques éléments clés spécifiques au commerce électronique. Le premier, évident mais crucial, c'est la gestion des stocks.
Éviter la rupture de stock.
Être en rupture de stock de ton produit vedette le jour du Vendredi fou, ce n'est pas juste une vente manquée. C'est une occasion ratée de créer un lien avec un nouveau client qui va aller voir ailleurs et qui ne reviendra peut-être jamais.
C'est une porte qui se ferme.
Exact. Il y a une donnée intéressante dans les sources. Même si les colis légers dominent, les envois lourds, comme les meubles, devraient connaître une croissance de presque 5 % par an. le marché se diversifie.
La communication semble aussi être un thème central. On en a parlé pour l'international, mais ça s'applique partout, j'imagine.
C'est le pont entre la logistique et l'humain. Il faut être radicalement transparent sur les délais.
Radicalement transparent, j'aime le terme.
Si tu sais que les livraisons prennent 2 jours de plus que d'habitude, dis-le. Mets une bannière sur ton site. Un client informé est un client patient.
Alors qu'un client qui découvre le retard par lui-même...
est un client frustré.
C'est ça. Fournir des mises à jour de suivi proactives, ça montre que tu suis le collier avec lui. Ça transforme l'anxiété de l'attente en une expérience partagée.
C'est un bon point.
Et le guide se termine sur une dernière recommandation qui se passe au moment même de l'achat.
Oui, et c'est une façon de redonner le contrôle au client. Il s'agit d'offrir plusieurs options de livraison au moment de payer.
Le choix.
Exact. Tu veux ta tuque le plus vite possible? Voici l'option express. Elle coûte plus cher. Tu n'es pas pressé, tu préfères économiser? Voici l'option standard. Le fait de donner ce choix répond à différents besoins, différents budgets, et ça donne au client le sentiment de maîtriser son expérience d'achat du début à la fin.
Si on devait distiller l'essence de ce guide en une seule idée, ce serait que la préparation n'est pas une option, c'est la stratégie. Il faut être proactif pour ne pas avoir à être réactif dans un contexte qui, par définition, est chaotique.
C'est exactement ça.
Prévoir avec des données, communiquer avec transparence, diversifier ses partenaires et viser une précision quasi chirurgicale dans tout ce qui est mesurable.
Absolument. Et si on prend un peu de recul, on réalise que maîtriser sa logistique pendant la haute saison, ce n'est pas juste une question d'efficacité opérationnelle. C'est devenu un élément central de l'identité de la marque.
Ah, intéressant.
Une entreprise qui livre à temps et communique bien pendant que ses concurrents s'excusent pour des retards, elle ne fait pas juste vendre un produit, elle vend de la fiabilité.
De la confiance.
Et cette confiance, elle reste bien après que les décorations de Noël soient rangées.
Et pour laisser matière à réflexion, le guide se concentre, avec raison, sur la préparation logistique. Ça soulève une question fascinante. Comment une entreprise peut-elle préparer son marketing et son service à la clientèle pour qu'il soit parfaitement aligné avec ses réalités?
Mm-hmm.
Comment peut-on transformer la transparence sur les défis d'expédition, non pas en un aveu de faiblesse, mais en une preuve de confiance qui renforce la relation avec le client avant même qu'il ait cliqué sur « acheter »?